Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bien, bonsoir à tous. Je vais être très rapide. Déjà, vous souhaitez la bienvenue. Souhaitez la bienvenue aussi à Jean-Loïc Lequelec et Christophe Darmanja. Et remercier Arthur Chicot du Laboratoire Trace qui co-organise le colloque à l'occasion duquel nous avons donc la chance de pouvoir organiser cette rencontre. Arthur a dû vous le dire, Bernard Lahire ne peut pas être là ce soir. Il a eu un empêchement de dernière minute, on n'a pas eu le temps de faire passer l'information. On en est désolé, mais on a quand même deux. Voilà. Et donc merci beaucoup pour la modération et je vais laisser la parole à Arthur pour présenter les auteurs invités ce soir. Merci.
Donc on reprend. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est dans la continuité d'un colloque qui a démarré aujourd'hui à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, intitulé « Le corps de mon ennemi, conflit armé dans les sociétés sans richesse », que nous retrouvons ce soir en compagnie de Christophe Darmanja, maître de conférences en anthropologie sociale à l'Université de Paris-Cité, et Jean-Loïc Lequelec, anthropologue, préhistorien et mythologue, directeur de recherche au CNRS. Alors ce colloque qui a démarré aujourd'hui à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès réunit ethnologues, préhistoriens, paléo-anthropologues, primatologues et historiens. Et il a pour but de mettre en commun ce que nous connaissons à propos des affrontements armés intergroupes chez les sociétés dépourvues d'État et de richesses, à savoir les sociétés de chasseurs, cueilleurs, collecteurs, pour discuter de l'origine de ce phénomène, du phénomène guerrier, chez notre espèce, Homo sapiens. Et donc d'aborder le sujet de la violence collective chez les sociétés humaines préhistoriques. Car depuis plusieurs décennies, au moins en France, l'hypothèse majoritaire était celle d'une origine de la guerre relativement récente, coïncidant avec la néolithisation, c'est-à-dire l'apparition de sociétés sédentaires et agricoles, voire pour des périodes plus récentes, correspondant à l'âge du cuivre et à l'âge du bronze. Cependant, la mise en évidence durant ces dernières années de l'existence probable d'affrontements intergroupes en plein cœur du paléolithique récent, c'est-à-dire aux alentours du 20e millénaire, mais également de véritables massacres collectifs durant la dernière phase de cette période, il y a environ 10 000 ans, remet clairement en cause cette vision. Après avoir analysé les différents paramètres de ces conflits, donc les motifs, le nombre de victimes, les employés... Alors, excusez-moi, là, j'étais sur autre chose. Pardon, désolé, j'ai une petite erreur dans mes notes. Donc, excusez-moi. Ouais, on la refait, non, on n'a pas trop le temps. Bon, nous allons discuter donc ce soir de ce sujet, du sujet des origines de la conflictualité collective, des origines du phénomène guerrier via l'exposé de deux ouvrages parus récemment. Alors, le premier publié en 2021 aux éditions Smolny, signé par Christophe Darmanja, traite des affrontements armés collectifs chez différents groupes aborigènes d'Australie durant la période précoloniale. Il s'agit d'une enquête ethnographique minutieuse réalisée à partir de témoignages d'ethnologues, de voyageurs, d'explorateurs, de colons, de journalistes et bien entendu d'aborigènes eux-mêmes. Et à l'issue de cette enquête, l'auteur de ce livre a pu constituer une importante base de données accessible en ligne, décrivant 215 épisodes de violences armées entre groupes aborigènes entre le début du 19e et le milieu du 20e siècle. Ce travail constitue ainsi une solide base pour pouvoir aborder la question de la conflictualité intergroupe chez les sociétés humaines préhistoriques du Paléolithique, qui à bien des égards présentait des similitudes socio-techno-économiques avec celles des groupes aborigènes australiens précédant la colonisation. Alors le second ouvrage, bon là j'avais préparé mon papier et je pensais que le second ouvrage de Jean-Loïc Lecalec était donc celui publié en 2022. Alors je vais faire de la pub pour cet ouvrage du coup, même s'il n'est pas présenté ici. Donc le second ouvrage publié en 2022 aux éditions La Découverte de Jean-Loïc Lecalec constitue également une somme colossale de données. Ce n'est pas moins de 452 cavités contenant des ornementations attribuables à diverses sociétés préhistoriques du Paléolithique que l'auteur analyse dans ce livre tout en apportant une critique des travaux et des interprétations antérieures afin d'explorer les mythes et les croyances de ces sociétés humaines disparues. Et ce soir, donc je pensais qu'il allait nous présenter sous quelle forme apparaissent justement les affrontements armés à travers les mythes de ces groupes humains anciens et ce qu'ils signifient pour ces derniers. Mais finalement, je vois que c'est son... D'accord, mais bon, je... Tout va, d'accord. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a également son dernier livre, donc intitulé « Nos ancêtres, les pharaons, 5 siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne ». Donc on pourra peut-être aussi en discuter, à voir s'il est possible d'accorder ça, ce dernier ouvrage avec la thématique des conflits intergroupes. Donc je vais laisser d'abord la parole à Jean-Loïc. Peut-être que tu peux nous apporter, nous présenter brièvement l'un ou l'autre ouvrage, voire les deux. Voilà, pour voir, donc soit juste les présenter brièvement ou alors essayer d'accorder ça avec la thématique du colloque.
Oui, alors moi je suis, disons, un petit peu préhistorien, un petit peu mythologue, un petit peu archéologue, un petit peu d'autres trucs aussi. Et ce qui m'intéresse depuis longtemps, c'est pour ce qui est de la préhistoire. Alors ma vraie spécialité, c'est-à-dire la raison pour laquelle je suis payé par le CNRS, c'est l'art rupestre du Sahara central. Voilà. Ça, c'est ma spécialité. Là, voilà. Mais l'art rupestre, c'est des images. Et les images appellent l'interprétation. Quand on voit une image, on ne peut pas faire autrement que d'essayer. Enfin, même si on n'essaye pas, notre esprit se met en route et on interprète. Voilà, on essaye de voir, on pense des trucs, on croit voir des choses, etc. Dès qu'on voit une image, on est fait comme ça. Bon, voilà. Et depuis très longtemps, ce qui m'intéresse dans l'art préhistorique ou l'art pariétal ou l'art rupestre en général, parce qu'il y a encore des gens qui font de l'art rupestre, il n'y a pas que les préhistoriques, c'est d'essayer de retrouver les récits qui ont accompagné ces images ou qui ont présidé à la réalisation de ces images. C'est-à-dire que ça va tout à fait contre le commun dire intuitif des préhistoriens qui disent « non mais c'est n'importe quoi » parce qu'en fait, les mythes, les récits, les contes, les chants, les poèmes, n'importe quoi, qui ont accompagné les images qu'on voit maintenant sur les parois, ils sont disparus à tout jamais. C'est même pas la peine d'essayer de chercher. Jamais on les retrouvera, c'est mort, parce qu'il n'y a pas de traces écrites. Et évidemment, on parle de préhistoire, il n'y a pas de traces écrites. Ou on parle de sociétés sans écriture, pas plus récentes, mais les gens n'écrivent pas. Donc c'est pas la peine, on ne saura jamais. Et ma prétention, disons, c'est de dire si, certes, vous, préhistoriens, vous ne retrouverez jamais parce que vos outils ne sont pas adaptés. C'est-à-dire que vous avez des outils merveilleux, les préhistoriens, les archéologues, pour trouver des tas de trucs et pour chercher des tas de trucs. Et ça fonctionne très, très bien, de mieux en mieux. C'est de plus en plus technique. Il y a eu des progrès récents magnifiques qui permettent de dater des choses avec des prélèvements invisibles à l'œil nu ou microscopiques, etc. Tout ça, c'est très bien, mais c'est complètement inadapté à la tradition orale. C'est complètement inadapté à la recherche des mythes du passé. Et évidemment qu'on ne trouvera jamais un mythe sous la truelle d'un archéologue. Et d'accord, là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas parce que les archéologues ne peuvent pas retrouver les mythes du passé que personne ne peut le faire. Et donc moi, je pense qu'il y a, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas archéologues, dont le métier est différent et qui, depuis grosso modo un siècle et demi, ont passé toute leur vie à essayer de reconstituer des mythes du passé. Il y a une science de la mythologie du passé. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut interroger et pas les préhistoriens si on a la prétention de retrouver les mythes du passé. Et donc mon idée, c'est de conjoindre les deux spécialités, c'est-à-dire à la fois la spécialité des archéologues et des préhistoriens et des ce qu'on appelle les pariétalistes, ceux qui étudient les images sur les parois, qui les documentent, qui les rendent mieux visibles quand elles ne sont pas bien visibles, qui regardent les superpositions et l'histoire des parois, en fait. Bon, c'est une spécialité. Une autre spécialité, c'est l'histoire des mythes, qui plonge dans un très lointain passé, mais une fois qu'on a dit « ça remonte à la nuit des temps », on n'a pas dit grand-chose. Est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus précis que de dire ça? Et donc, oui, je pense que oui, on peut. Et mon idée pour ce qui est de le livre de la caverne originelle, c'est de dire, en gros, tous les préhistoriens se chamaillent ou n'ont aucune opinion sur la signification des images. Il y a des images dans les grottes. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces gens ont été s'emmerder à faire des images dans le noir, dans les endroits dangereux, on se tape la tête sur les trucs et tout? C'est vraiment, quelle idée, quoi. C'est bien plus facile à la lumière, à l'extérieur. Pourquoi ils ont fait ça? Il y a eu plein d'hypothèses. Il n'y en a en gros aucune qui tient la marée, vraiment. Toutes ont été plus ou moins réfutées. Bon, quand je dis plus ou moins, c'est qu'elles peuvent marcher pour une grotte ou deux et puis pas pour tout le reste. Bon, il n'y a rien qui tient. Et donc, voilà, pourquoi? Il y a une chose sur laquelle tous les préhistoriens sont d'accord, c'est de dire que ça a probablement rapport avec quelque chose comme une mythologie. Une mythologie, c'est-à-dire des récits qui justifient l'état présent du monde en faisant appel à des événements du passé. C'est ça, une mythologie. C'est de dire, en gros, autrefois, les humains étaient immortels. C'était bien. Voilà. Mais il s'est passé un truc, et puis maintenant, on est mortel, la vie est brève, on accouche dans la douleur, tout ça. Bon, là, rien ne va. Mais parce qu'il y a une chose qui s'est passée une fois et qui a tout changé. C'est ça un mythe. Et c'est ça, la plupart des mythes d'origine fonctionnent de la même manière. Les préhistoriens sont d'accord, sans aller plus loin, pour dire quand on voit les images, tout ça, puis le fait d'aller s'embêter à faire ça dans le noir, dans un endroit dangereux, c'est difficile. C'est sûrement il devait y avoir une motivation très très forte, et cette motivation, elle devait tenir de quelque chose comme de la mythologie. Et donc moi je suis entièrement d'accord. Mais je dis, bon, une fois que vous avez dit ça, c'est très gentil, je suis d'accord, mais de quelle mythologie vous parlez? Si vous parlez de mythologie, il y a donc des mythes, mais de quel mythe on parle? Et je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a un mythe, il faudrait trouver idéalement un mythe qui cause de grottes, qui cause de ce qu'on voit dans les grottes comme image, et puis qui aille bien avec tout ce qu'on connaît grâce aux préhistoriens sur l'archéologie des grottes. Et il faudrait prouver que ce mythe-là était vraiment existant, qu'il se racontait, qu'il se disait, et qu'il était très important à l'époque où les grottes ont été ornées, et qu'il était suffisamment important pour motiver le fait d'aller s'emmerder dans le noir à faire des images telles qu'on les voit maintenant. Et donc, je vous la fais brève, la question est oui, il y a bien un mythe comme ça. Et oui, contrairement à l'idée commune, contrairement à ce que disent les archéologues et contrairement à ce que disent les gens qui ne connaissent pas le sujet, en fait, oui, on peut démontrer que ce mythe remonte au Paléolithique. Voilà. Il y a un mythe qui remonte au Paléolithique, qui permet de comprendre pourquoi les gens se sont fait suer à aller faire des images dans les grottes. Et donc le sujet de la caverne originelle, c'est ça. C'est d'une part critiquer toutes les explications qui ont été données jusqu'à présent, pas pour dire « non mais ils sont tous trompés, c'est moi qui ai raison hein, », parce qu'il y a du vrai dans toutes les explications, mais il n'y en a aucune qui convient vraiment à l'ensemble. Voilà, donc démontrer ça. Et ensuite, chercher le mythe qui va bien et montrer comment on peut faire pour montrer que ce mythe existait bien au Paléolithique. Parce que si on veut expliquer l'art des grottes par quelque chose d'autre que l'art des grottes, genre le chamanisme, ça s'est beaucoup fait, on dit ouais, tout ça c'est chamanique. Bon. Oui, mais il faut montrer que le chamanisme existait bien au moment où l'art des grottes a été réalisé. Parce que si je sais par exemple que le chamanisme c'est une création de l'âge du bronze, pour expliquer l'art des grottes, ça ne le fait pas. Donc il faut que je démontre que ce par quoi je vais expliquer l'art des grottes existait bien au moment où l'art a été réalisé, bien entendu. Et donc une partie du livre consiste à démontrer que le mythe qui a mobilisé les gens pour ornementer les grottes existait bien au moment où ils l'ont fait. Je veux pas être trop long, c'est ça, j'essaye de faire bref. Disons que Alors l'idée, il faut trouver un mythe qui cause de grottes, c'est quand même mieux. Donc il n'y en a pas tant que ça, des mythes qui causent de grottes. Il faut trouver un mythe qui nous parle d'animaux qui sont dans les grottes, évidemment, parce qu'on a des animaux, il y a plein d'animaux dans les grottes. Les humains, il n'y en a pas beaucoup. Mais les humains qu'on a dans les grottes, c'est des humains bizarroïdes. Les préhistoriens disent qu'ils sont animalisés. C'est-à-dire qu'ils sont humains, d'accord, ils ont un look grosso modo d'humain. Quand on regarde les détails, ça ne va pas trop. Ils ont une tête d'animal, ou c'est les pieds, ou ils ont une queue. Enfin, on dirait des êtres intermédiaires. On appelle ça des théranthropes. Ils sont à la fois théron en grec, ça veut dire animal sauvage. Anthrope, c'est humain. Et donc, ils sont mi-humains, mi-animaux. Et donc, voilà, c'est ça qu'on voit dans les grottes. Donc, il faudrait trouver un mythe qui va bien avec tout ça et qui soit suffisamment important. C'est-à-dire, un mythe, c'est une histoire qu'on raconte, hein. Donc on raconte plein d'histoires, mais avec plus ou moins d'importance. Il y a des histoires qu'on raconte tous, hein, dans toutes les cultures, où il y a des histoires de fin de banquet, quoi. Hein. Bah, c'est pour rigoler, voilà. Bon. Mais il y a des histoires qu'on raconte pas n'importe quand. C'est pas n'importe qui les raconte, et c'est pas à n'importe quel moment de l'année, c'est même pas à n'importe quel moment du jour. Il y a des histoires extrêmement importantes. Quand on les raconte, tout le monde se tait, c'est hyper important, parce que, par exemple, on exprime l'origine de l'humanité. Il n'y a pas, pour les groupes, tous les groupes humains ont un mythe qui explique l'origine de l'humanité, en gros, et il n'y a pas plus important, parce que l'humanité, pour l'humanité, c'est important. Et donc, il faudrait trouver quelque chose de ce genre. Et donc, il y en a un qui s'appelle le mythe de l'émergence, enfin, qu'on appelle, quand on s'occupe de ce genre de choses, le mythe de l'émergence, primordial, qui dit qu'à l'origine, tous les humains vivaient sous terre, dans une caverne primordiale. Et qu'un jour, alors je vous la fais bref parce que c'est toute une histoire, il y a tout un tas d'aventures, évidemment, il y a du suspense, tout ça, bon voilà. Mais grosso modo, un jour ils sont sortis de sous terre par une ouverture, qui est donc une grotte par définition. Ils sont sortis et ensuite ils se sont répartis dans le monde. C'est le mythe de l'émergence primordiale des humains et des animaux, parce que sous terre ils vivaient également avec les animaux. Avec une variante extrêmement répandue qui est que quand ils étaient sous terre, tout ça, c'était un peu indistinct entre les humains et les animaux. La différence, ce n'était pas celle que nous connaissons maintenant ou que nous instituons maintenant. Parce que c'était à quelle époque ça se passait, ça ? Les mythes et les contes disent « Ah, c'était à l'époque où les bêtes parlaient, par exemple. » Et à l'époque où les bêtes parlaient, ou à l'époque où les roches étaient molles, etc. Et à l'époque où était, moi, on me l'a montré. Pourquoi je me suis intéressé à tout ça ? Parce que comme je m'intéresse à l'art préhistorique et à l'art rupestre, un jour, je me balade dans plein d'endroits où il y en a pour voir, essayer de comprendre des trucs et tout. Et un jour, je vais dans les Tsodilo Hills au Botswana. Et là, je fais des photos comme tout le monde. Voilà, c'est un parc national, on peut y aller qu'en groupe avec un guide, donc on est obligé de faire comme tout le monde. C'était pas un projet scientifique particulier, c'est moi je voulais voir. Et les gens font des photos, puis au bout d'un moment, les gens ils font moins de photos, puis de moins en moins de photos, puis ils commencent à faire des selfies, et puis parce qu'une fois que tu en as vu 10, des gravures, des peintures, hein, tu les as toutes vues, c'est comme les menhirs, les dolmens, tout ça, tu en as vu 10, tu as tout vu, hein, bon voilà. Donc ils en ont marre, et moi je continue à faire des photos, des photos, des photos, des photos. Et donc le mec, le guide, il me remarque, puis il dit, lui il est un peu... Et il vient me voir, il me dit, si tu, ça a l'air de t'intéresser vraiment, toi, si tu veux, je te montre un truc que normalement on ne montre pas aux touristes, parce que bon, c'est pas sûr que ça les intéresse non plus, toi, mais toi, peut-être ça peut t'intéresser. Alors je me dis, trop génial, il va me montrer le truc, mais vraiment la peinture inédite, incroyable, je voyais déjà l'article dans une grande revue de rang A, toi, bon, voilà. Et il m'emmène dans un endroit où il me montre, il n'y avait rien, pas de parois, rien, et par terre, il me montre un tas de cailloux, grosso modo, quoi. Et entre les cailloux, il y avait un petit jour entre quelques cailloux, quoi, mais rien, quoi. Alors moi, je fais le mec super intéressé, je dis, ah ouais, super, sympa, merci, tout ça, bon, je fais une photo, bon. Et le type, il me dit, ah, mais là, c'est super important, parce que ça, c'est le trou de l'émergence primordiale. C'est là que sont sortis les premiers humains et les premiers animaux. Et la preuve que c'est vrai, c'est que sur la roche que tu vois là, il y avait un gros rocher aplati en grès, hein, c'est une espèce de grès de Nubie, là. Il y a des traces, il y a des géologues, là, ça s'appelle des ripple marks, des ondulations. Ça, ces traces-là, c'est les traces de doigts des premiers humains quand ils sont sortis par le trou et qu'ils se sont extirpés comme ça, et que... Ben, c'était très dur de sortir parce que c'est un tout petit trou. Alors, le trou, il est gros comme ça, tu parles. Hein. Et donc, ils ont laissé les empreintes. Puis plus loin, tu vois les empreintes des animaux, etc. Et tout ça se passait au temps où les roches étaient molles. Voilà. Donc, on me montre ça. Et ça a été le début d'une très longue enquête où je me suis aperçu que ce genre de récit, où des gens disent les premiers humains, c'est-à-dire nous, c'est eux et nous encore, on retrouve ça. C'est-à-dire, nous, notre groupe, là, on vient de là. C'est là notre origine et l'origine de l'humanité. Mais après, on m'a raconté ça dans l'Utah, on m'a raconté ça dans l'île de Jeju, au large de la Corée. On m'a raconté ça en plein d'endroits du monde. Et à chaque fois, on me dit, c'est là. Tu vois le trou, là ? Et tu vois les empreintes autour, là ? C'est bien la preuve que c'est vrai. C'est là que ça s'est passé. Et je me suis dit, comment se fait-il que dans plein d'endroits du monde, des gens qui appartiennent à des cultures complètement différentes, qui n'ont jamais eu de contact historique entre eux, etc., à propos de leur propre origine, ce qui est hyper important, disent la même chose. En disant, l'humanité, l'origine, c'est là, et c'est sous terre. C'était le début de l'enquête, et je me suis aperçu que ce mythe d'origine de l'émergence primordiale de l'humanité, il est répandu dans le monde entier, jusqu'en Australie même, c'est pour dire, hein, et qu'en fait, c'est vrai. Alors, c'est le mythe d'origine le plus répandu dans le monde, et c'est probablement le mythe d'origine le plus ancien du monde. Voilà. Et c'est le mythe d'origine, je démontre par ailleurs, mais je ne peux pas faire la démonstration oralement, parce que voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Croyez-moi sur parole, si vous ne croyez pas, vous regardez le livre. C'est un peu de l'ordinateur, un peu de la statistique, un peu des trucs compliqués pour faire la démonstration. Mais on peut démontrer que ce mythe existait au Paléolithique. Et que donc, au Paléolithique, il y avait un mythe qui justifiait, qui expliquait l'origine de l'humanité et des animaux. C'était le mythe d'origine des humains et des animaux. Et les gens qui ont pénétrer dans les grottes pour dessiner des humains, mi-animaux, pas tout à fait encore humains, et des animaux, s'ils avaient un mythe d'origine dans la tête, c'est celui-là. Et donc, je pense que l'idée de ce mythe de l'émergence primordiale de l'humanité, c'est ça qui a été le moteur des gens qui ont été dans les grottes pour non pas le représenter, ce serait encore une autre discussion, mais pour, disons, raviver la création. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Luc. Et je me permets de te poser une question, justement, par rapport à cette enquête. D'après ce que j'ai compris, tu as pu rencontrer des personnes qui croient encore à ces mythologies, ou alors, du moins, qui sont capables d'expliquer ces mythologies. Donc, ce sont des membres de sociétés traditionnelles ou qui ont donc, comment dire, hérité de traditions orales. Et donc, c'est bien le cas.
Oui, c'est tradition orale. Après, pour documenter la mythologie en général, autre que mythologie grecque, voilà, mythologie de l'Antiquité, ce que souvent dans notre tête, nous, à cause de notre éducation, on synonymise mythologie et mythe avec grec, Égypte, voilà, quelques petits groupes, mais il n'y a pas de groupe humain sans mythologie. Voilà. Donc c'est forcément oral, parce que l'immense majorité du passé des humains, c'est hors écriture. Et donc ces récits qui sont hyper importants et qui fondent la raison d'être des humains, mais des animaux, du monde lui-même, etc., c'est des récits qui sont transmis oralement de génération en génération, auxquels on peut avoir accès grâce aux gens qui les ont notés à diverses époques. Alors il y a les ethnologues qui les ont notés depuis, disons, grosso modo, le 19e siècle, 20e siècle. Beaucoup d'ethnologues ont noté ces récits, ont été à la recherche de ces récits et les ont recueillis ou enregistrés maintenant ou filmés quand il y a eu les enregistreurs. Bon. Avant, il y a des gens qui les ont notés aussi, mais c'est déjà beaucoup plus aléatoire. Mais en gros, depuis que l'écriture est connue, il y a des gens qui notent ce type de récits. Mais quand on a, par exemple, un récit dans l'Égypte antique ou en Chine antique ou en Mésopotamie antique, donc on est dans les, grosso modo, 3e millénaire, et on a un texte, donc ça va être la plus ancienne attestation. Mais c'est la plus ancienne attestation. Ce n'est pas là que ça a commencé. C'est parce que là, il y a quelqu'un qui, un jour, a dit « Ah, c'est sympa ce récit, je vais l'écrire. » Voilà. Et que l'écriture était là, donc il a perduré jusqu'à nous. Mais en compilant tout ça et en faisant un travail de comparatiste, un peu à la Lévi-Strauss, mais disons amélioré avec des techniques statistiques, on peut remonter dans le temps en comparant les diverses versions. Voilà. Grosso modo, mon discours, au fond, c'est de dire ce qui nous intéresse là, c'est le passé, et un passé assez lointain, puisque c'est paléolithique quand même, c'est quand même assez lointain. Ça peut être même très lointain. Et donc, comment faire ? On a plusieurs machines à remonter le temps. Voilà. La préhistoire, c'est une machine à remonter le temps. On fait des fouilles, voilà, on fait des datations et tout. Ça, c'est une machine à remonter le temps qui marche très bien, qui est imprécise, mais qui marche. Voilà. La génétique, c'est une autre machine à remonter le temps qui permet de remonter aussi, qui est imprécise, voilà, mais qui marche, voilà, avec des imprécisions. Bon, voilà. La linguistique historique, c'est aussi une machine à remonter le temps qui marche avec des imprécisions, mais ça marche jusqu'à une certaine époque, en tout cas. Voilà. Et la mythologie comparée, aussi, c'est une machine à remonter le temps. Et donc, ma démarche, en gros, c'est de dire, plutôt que d'utiliser une seule machine, qui marche, mais qui est très imprécise, plus on remonte dans le temps, plus c'est imprécis en plus, eh bien on va en utiliser plusieurs, parce qu'en utilisant plusieurs, peut-être on va réduire le degré d'incertitude.
Merci. Et une dernière question, parce qu'à vrai dire, je tente d'articuler cette présentation avec celle de Christophe, mais parce que... Non, mais je pense que je vais tenter, parce que, en gros, ma question, qui suit juste après la première, c'était de savoir s'il existe encore actuellement des sociétés humaines, des communautés humaines qui vont réaliser des représentations pariétales avoir toutes ces croyances telles que, alors au moins des représentations qui peuvent s'apparenter à celles qu'on retrouve durant le paléolithique, parce que je dis ça parce qu'il me semble qu'en Australie aborigène, voilà, c'est pour ça, c'est que c'est le cas, ou du moins qu'il y a encore pas très longtemps, certaines communautés réalisaient encore. Et parce que oui, j'ai souvenir d'avoir vu dans un documentaire Arte qu'une grand-mère aborigène en terre d'Arnhem, il me semble, qui était capable de raconter chaque mythe, voilà, en disant aux journalistes, voilà, ici on a telle représentation qui signifie telle chose, et je trouvais ça incroyable, quoi, d'avoir ce témoin justement de ces pratiques. Donc a priori, c'est bel et bien le cas en Australie aborigène, par exemple.
Alors, je vais faire deux réponses, je vais essayer de faire bref, parce qu'il y a deux parties dans la question. La première, c'est est-ce que... oui, il y a encore des gens qui racontent des histoires qui peuvent être connectées à une extrême antiquité. Et l'histoire d'aller dans les grottes pour dessiner quelque chose qui n'est pas une illustration du mythe de l'émergence, mais qui a un rapport avec lui, pour moi, ça s'explique du fait que c'est des gens qui ont une vision de la création qui est différente de celle qui est commune dans notre culture commune, disons, que la création n'a lieu qu'une seule fois. Il y a une divinité ou plusieurs, peu importe. Hop, on crée le monde, on crée les humains. Une fois que c'est créé, c'est fini. Sixième jour, je me repose et tout, c'est terminé, on s'en occupe plus. Hein. Ça, c'est extrêmement limité. C'est très provincial comme façon de voir. C'est extrêmement limité dans le monde. Il y a la façon de voir la plus générale, c'est de dire oui, il y a une création à un moment donné, ça continue. Il faut continuer à s'en occuper parce que si on s'en occupe pas, ça va cafouiller. Ça va venir à rien. Il faut faire quelque chose. Alors, ben, les dieux, on ne sait pas trop ce qu'ils font et on peut pas trop influencer. Mais nous, humains, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, on va faire des rituels, on va faire des trucs qui vont aider comme on peut, quoi, pour que la création continue. Et donc, l'idée, c'est de retourner dans la grotte pour ce qui est du mythe de l'origine primordiale, de l'émergence primordiale, c'est de retourner dans la grotte, là où les humains et les animaux sont sortis, pour faire des trucs, alors des images, pour raviver la création, pour que la création continue, parce que sinon, il n'y aura plus de gibier, il n'y aura plus d'humains un jour, etc. Ce sera une catastrophe. Alors voilà. Et maintenant, aujourd'hui, je donne dans le bouquin un exemple qui se trouve au Guatemala, actuel, où il y a un endroit où il y a une montagne. D'en haut de la montagne, une grotte très très haute. Pour grimper, c'est genre, il faut une bonne journée ou deux jours pour grimper. C'est haut, quoi. Et la grotte, quand on traduit le nom local, le toponyme, ça veut dire, on traduit par grotte de l'émergence. On ne peut pas faire mieux, c'est bien, quoi. Bon, voilà. Grotte de l'émergence.
C'est quel endroit ?
Guatemala. Alors, je ne sais plus, je crois que ça s'appelle Tagalagal. Mais c'est dans le livre. Bon, voilà. Et donc, puis il y a même des photos dans le livre qui montrent la grotte et tout. Et là, l'idée, c'est que effectivement, l'émergence primordiale des humains et des animaux, ça s'est passé là. Et qu'il faut retourner tous les ans pour raviver la création, parce que sinon, un jour, ce sera la fin du monde. Il faut s'en occuper. Donc là, il y a des gens qui sont des spécialistes de ça, qui vont là-haut, qui font des chants spéciaux pour l'occasion. On allume un feu, on fait des danses. Il y a tout un rituel pour faire ce qu'il faut pour que la création continue. Sauf que, monde moderne, il faut genre un jour et demi pour monter, un jour et demi pour descendre, un jour pour faire le rituel. Il n'y a plus le temps. parce que les gens, ils bossent à la ville. Et bon, bah, c'est bien joli tout ça, mais on ne peut plus. Voilà. Sauf que si on ne peut plus, c'est une cata complète, parce qu'un jour, ça va être la fin du monde si on ne s'en occupe pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens ? En pleine ville, ils ont construit des grottes artificielles en parpaing, où en pleine ville, vous avez un truc cubique, comme ça, voilà, un truc horrible quoi, en parpaing, avec une entrée, il n'y a pas de fenêtre, rien. Et ils vont faire le rituel là-dedans, parce que c'est une réplique de la grotte de l'émergence. Et... alors, en plus, tout ça s'est christianisé parce qu'il y a tout un syncrétisme. Et les groupes qui s'occupent de ce genre d'endroit, de ces grottes de l'émergence artificielle, en fait, c'est les cofradías, c'est-à-dire les confréries. Et là, les rituels qui se faisaient autrefois dans la grotte là-haut se font là, aujourd'hui, exactement les mêmes, pour que la création du monde continue. Et au lieu de faire des peintures et des représentations d'images sur les parois comme jadis, et tout le monde sait que les traditions se perdent, n'est-ce pas ? Donc maintenant, ce qu'ils font, ils ont accroché aux parois des animaux empaillés. Mais la fonction, c'est la même, et ça continue sur la base du même récit d'origine. Donc oui, ça continue. Et pour l'Australie, parce que je n'ai pas perdu de vue qu'il fallait que j'enchaîne, là, j'ai bien compris. Hein, mais... Il y a un exemple magnifique, qui est un anthropologue, plutôt un pariétaliste, quoi, qui s'appelle McIntosh, qui a étudié une grotte, enfin un abri sous roche, c'est des abris sous roche plutôt, hein, avec des tas de peintures, et qui a fait ce que font tous les archéologues pariétalistes. Il a fait l'inventaire, il a classé alors, les anthropomorphes ici, les zoomorphes ici, les phytomorphes là, etc. Il y en a 30%, 30%. Et donc il a publié un article, qui est un bon article, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est mauvais, parce que sinon, il y a un sacré paquet de littérature qu'il faut jeter. Voilà, bon, il a fait ça. Et 10 ans après, il est repassé au même endroit, et là, il est tombé sur un aborigène. Il a discuté un petit peu le bout de gras avec lui. L'aborigène lui a dit « Ah, mais ça t'intéresse, la grotte, là ? Mais je connais bien, moi, parce que j'étais là tout petit quand ça a été peint, là, les trucs, là. Si tu veux, je te raconte. » Et donc, il lui a raconté... ce que lui avait dit, je ne sais plus si c'est son tonton, enfin bon, quelqu'un de sa famille, qui avait, lui était tout petit, s'en rappelait. Il lui a raconté donc ce que représentaient toutes les images. Et il y a plus de 90% d'erreurs dans les descriptions de McIntosh. Et ce qui est très bien, c'est qu'il a fait un second article pour publier les interprétations de l'aborigène et pour expliquer à quel point lui s'était trompé. Et ça fait vraiment un peu froid dans le dos quand on est pariétaliste, parce que des choses qui... à l'évidence, pour nous, représente un bonhomme. Non, c'est même pas un humain. C'était tout autre chose. Et des choses qui nous... Ça semble une bestiole, on sait peut-être pas trop quoi, mais il y a 4 pattes, une queue, tout ça. Non, c'est que ça représente tout autre chose que ce que nous avons tendance à interpréter, quoi. Et en tout cas, je passe la parole aux aborigènes de service.
C'est bon. Oui, alors tiens, bah, avant de parler de l'Australie, moi aussi je vais faire mon petit détour, mais pour faire un petit raccord avec l'autre thème, mais quand vous êtes convaincu que effectivement, certes, le monde a été créé, mais que si on remet pas un peu de carburant dans la machine, le monde va mal finir et que voilà, vous pouvez éventuellement faire des guerres uniquement pour vous procurer des prisonniers que vous pourrez ensuite sacrifier en leur arrachant le cœur pendant qu'ils sont vivants. Car comme ça, chacun sait, si vous alimentez pas le soleil avec du sang de prisonniers, avec du cœur encore chaud, ça va mal finir pour tout le monde. Donc autant que ça finisse mal juste pour certains. Voilà. Et ça, vous voyez, ce rapport entre les mythes et là, pour le coup, la création du monde et enfin ou la recréation du monde et la guerre qui moi m'a plus spécialement intéressé. Alors ce truc-là, c'est chez les Aztèques, hein, et où ils faisaient ça. On raconte que pour l'inauguration du temple principal de Tenochtitlan, j'arrive jamais à le dire comme il faut. Les chiffres. Alors c'est, je crois que c'est 60 000. 60 000 exécutions ou 20 000, je ne sais plus, enfin un nombre absolument considérable selon les organisateurs. Alors peut-être que selon la police, c'est un peu moins, mais c'est, voilà, c'est des milliers et des milliers de gens qui auraient été sacrifiés à cette occasion-là, et on en a quand même des traces archéo, etc. Alors j'en reviens maintenant aux aborigènes. Donc moi, la question. Alors j'ai parlé un petit peu de l'Australie, puis peut-être un petit peu aussi du colloque qui nous réunit en ce moment, qui est jamais que finalement la transposition de la question que je m'étais posée au départ à une échelle plus large. Donc au départ, moi, ce qui m'avait gratté, c'est que, il y a une idée qui circule en tous les cas en France. Dans d'autres pays, c'est un peu différent. Mais il y a une espèce de consensus qui s'est installé depuis un certain nombre de décennies. La guerre, c'est quelque chose de récent dans l'histoire des sociétés humaines. Alors récent quand on est préhistorien, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, etc. Mais en tous les cas, clairement, la guerre est une invention qui vient avec un certain nombre d'autres calamités, à savoir les inégalités de richesse, l'exploitation de l'homme par l'homme, la domination masculine éventuellement. Enfin, souvent, il y a l'idée qu'il y a une espèce de package du mal. Là. Enfin, vous voyez, tous les malheurs sont arrivés à peu près en même temps. Et ce en même temps, en gros, c'est la néolithisation. Donc aujourd'hui, on baigne dans une atmosphère générale qui voit quand même, en gros, les sociétés de chasse-cueillette, je dirais pas comme un paradis perdu, mais enfin, en tous les cas, comme quelque chose d'assez aimable, à la fois sur le plan économique. Ma foi, on vivait plutôt bien, on avait un régime sain, on vivait au grand air, etc. Il n'y avait pas de domination masculine, il n'y avait pas d'exploitation, il n'y avait pas de domination, il n'y avait évidemment pas de guerre. Bon, au pire, ça pouvait se chicorer de temps en temps, etc. Mais enfin, franchement, c'était, on ne peut pas appeler ça des guerres, quoi. Enfin, voilà, bon. Et puis donc, à un moment donné, arrive l'agriculture, la sédentarisation, l'augmentation de la densité de la population. Et puis, on se met à exploiter les gens, on se met à faire la guerre pour s'emparer du butin, des territoires, etc. Et puis, au bout du compte, on industrialise ça en construisant l'État. Alors, ce récit est un récit dans lequel nous on baigne, où il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été écrits, réécrits pour défendre ça. Et moi, il se trouvait qu'un certain nombre de textes sur lesquels j'étais tombé cadraient quand même un petit peu mal avec cette affaire-là, et en particulier, donc, m'étaient intéressés un peu sur d'autres aspects. Moi, j'avais commencé par la domination masculine. Donc j'ai fait un bouquin là-dessus. Et j'avais donc lu sur l'Australie. Et quand même, les Australiens, qui étaient donc des chasseurs-cueilleurs pur sucre, c'est non seulement pur sucre, mais c'est quand même le seul endroit du monde où c'est des chasseurs-cueilleurs qui n'étaient pas dans des endroits déshérités et où on ne pouvait pas faire d'agriculture. Si vous allez partout ailleurs dans le monde, quand est-ce qu'on a vu des chasseurs-cueilleurs, disons, à l'époque contemporaine, dans les 2-3 derniers siècles, là où les agriculteurs leur avaient foutu la paix, et les avaient pas soit convaincus de faire comme eux, soit ratatinés. Donc, en gros, sur les banquises, au fin fond des forêts vierges, au fin fond des déserts, etc. Eh ben non, en Australie, les chasseurs-cueilleurs, ils avaient un continent pour eux tout seuls, au moment où les Blancs sont arrivés. Pas d'agriculture, pas d'élevage, hormis un petit peu le chien. J'allais dire comme tout le monde, en tous les cas, comme ça se fait. Ils n'avaient même pas l'arc, par exemple. Vous voyez, c'est un truc quand même, pour vous dire, on parlait de provinciaux. Alors là, ils avaient certes le boomerang, la sagaie, etc. Bon, bref. Et alors, ces aborigènes, manifestement, avaient mal lu les livres qu'on avait écrits sur eux, ou en tous les cas sur les chasseurs-cueilleurs, parce que manifestement, pour des gens qui ne se battaient pas, quand même, de temps en temps, ils avaient l'air d'y aller de bon cœur. Donc, je me suis un peu penché sur la question. Et je me suis mis à commencer par relever systématiquement tous les récits de combats collectifs qu'on trouvait. Et puis, la récolte, j'ai fait en secouant l'arbre, finalement, la récolte a été... ça n'avait jamais été fait. Jamais. Il y a des choses qui avaient été écrites ponctuellement sur tel peuple, voilà comment eux, ils se battent. Voilà, ta 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 ta. Et justement, donc, j'étais tombé là-dessus. Tiens, quand même, eux, ça chicore, quoi. Pareil, alors... En nombre absolu, ça faisait pas des kilos et des kilos de morts. Évidemment, si vous comparez ça à une guerre moderne à Verdun ou je sais pas quoi, c'est de la gnognotte. Mais quand vous rapportez au nombre de gens, en fait, c'est beaucoup plus meurtrier que les guerres modernes. Donc, vous voyez, quand vous avez des fois, il y a tout un groupe qui avait l'air d'avoir été éradiqué, quand même. Bon. Parce que, chez les chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas l'armée régulière et les civils. Ça n'existe pas, les civils. C'est-à-dire, tout homme valide, c'est un combattant. Après, il y a les femmes, les vieux, les enfants, etc. Mais enfin, tout homme valide est un combattant. Bref. Donc, je fais mon inventaire. Et puis, je m'aperçois, alors que d'abord, ces gens-là font des tas de trucs bizarres. Donc, il y a des machins où... vous avez 10 bons hommes, 20 bons hommes, 50, 60, 100, 200, 500 ou 600 des fois contre eux, autant en face, qui se rassemblent. Alors, pour des sociétés de chasseurs-cueilleurs où il y a des groupes de 30 personnes, il y a des bastons à 1200, et ça, c'est parfaitement attesté. Tout le monde se rassemble, on commence par se traiter de tous les noms, etc., etc. On s'envoie des machins, on se rapproche, on se castagne à coups de massue, voilà. Et puis quand il y en a un ou deux qui commencent à avoir trop mal et à être un peu par terre, hop, on arrête. On se console, on se prend dans les bras l'un de l'autre, on se soigne les blessés et on fait la bringue. Bon. Alors ça, c'est bizarre déjà. Hein. Clairement, c'est pas une guerre. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des tas de gens qui ont dit, bah, vous voyez bien, ils font pas la guerre. Ils font des trucs, font des fausses guerres, ils font des guerres rituelles. Enfin, on les a appelés de plein de noms, mais voilà, clairement, c'est pas la guerre. Et effectivement, clairement, c'est pas la guerre. Le seul truc, c'est qu'ils font pas que ça. Et que dans un certain nombre de situations, vous trouvez des témoignages où genre, on leur a foncé dessus au petit matin. Là, on a zigouillé tout le monde. Ok, les femmes et les enfants ont eu le temps de se barrer parce que nous, on s'occupait des bons hommes. Mais ce qu'on a fait du coup de coup, c'est qu'on s'est planqué parce qu'on savait qu'ils allaient revenir. Et une fois qu'ils sont revenus, bah, on les a finis. Voilà, hein, voilà. Et avec des tas de témoignages extrêmement gore comme ça, etc. Et il y a quand même tout un tas de situations où ces gens-là font la guerre. Mieux que ça, vous lisez couramment en préhistoire que les armes de guerre, c'est très récent, ça date de l'âge du bronze. Chacun sait que les armes de guerre, c'est inventé avec l'épée et le bouclier de bronze, et qu'avant ça, ok, des fois ça pouvait chicorer un peu, mais c'était entre guillemets au fusil de chasse et à la fourche, vous voyez, enfin on prenait, ou au couteau de cuisine, enfin on prenait ce qu'on avait sous la main, donc les armes de chasse, etc. Vous les allez chez les aborigènes australiens, mais pas du tout. Ils ont des armes de guerre spécialisées, et ils le disent. Enfin d'abord, il y a des trucs, ça laisse comment dire, quand tout homme valide a un bouclier, vous pouvez pas tellement imaginer que c'est pour la chasse au kangourou, vous voyez, enfin c'est, bon voilà, plus tout un tas de massues, etc., plus tout un tas de lances, où les gens vous disent, ah bah ça c'est la lance pour la chasse, ça c'est la lance pour la pêche, ça c'est la lance pour la guerre, ça c'est la lance pour les bastons, où justement l'idée c'est de pas faire trop de morts, etc., etc. Bref, il y a tout un armement spécialisé. Donc je me suis plongé là-dedans, et avec finalement, et encore une fois, tous ces affrontements ne sont pas des guerres, très clairement. Et donc, c'est important de comprendre que quand il y a des groupes humains qui se battent, tout n'est pas de la guerre. Et alors, on est bien embêté parce que nous, on a un mot, c'est guerre. Voilà. Et puis, comment on appelle les groupes humains qui se battent et qui tuent des fois un petit peu, mais pas trop, voilà, avec des règles, etc., ben, on n'a pas de mots. Et du coup, on a tendance à le zapper. Hein, ou alors, on dit, c'est de la guerre bizarre, c'est de la guerre rituelle, et voilà. Donc, j'ai essayé de prêter un peu attention à ça. Et puis, surtout, je me suis dit, ben, finalement, ces aborigènes australiens, clairement, ils démentent les idées qu'on a sur notre propre passé, sur le paléolithique, où, en gros, on nous dit, ben, voilà... Tant que les gens ne sont pas sédentarisés, qu'ils n'ont pas commencé à accumuler un certain nombre de biens, de richesses, etc., et que donc ils n'ont ni motivation, ni les moyens d'aller se ficher sur la figure donc ils étaient pacifiques. Alors, encore une fois, bah, bien sûr, de temps en temps, ça pouvait éventuellement se fâcher un peu, et puis au pire, quand vous vous fâchez comme ça, bah, vous vous séparez, parce que tout ça, c'est des gens nomades, la terre est vaste, il n'y a pas une grande densité, voilà. Et ben, sauf que les Australiens, quand ils se fâchent, ils se tapent, voilà. Et ils se tapent, pas du tout pour se piquer des richesses, pas du tout pour se piquer des territoires, mais pour d'autres raisons, et en particulier, eux, la raison principale, c'est les vengeances. En particulier, par exemple, il n'y a pas de mort naturelle en Australie. Hein. Si tonton s'est fait mordre par un serpent, c'est qu'il y a eu un sorcier, un machin qui lui a acheté un sort, etc. En théorie, on a le droit de se venger. On ne le fait pas forcément toujours, parce que voilà, mais on a le droit. Et alors, quand c'est quelqu'un en plus auquel on tenait particulièrement, on a le droit carrément de se venger beaucoup. C'est-à-dire, on passe de œil pour œil, dent pour dent, la vendetta, à carrément, là, on va aller la ratatiner. Il y a un missionnaire italien qui fait une ethnographie extraordinaire dans l'ouest de l'Italie, dans l'ouest de l'Australie, pardon, milieu du 19e siècle, etc. Lui, il fonde la première, les missions, quoi. Enfin, voilà, il essaye d'évangéliser les Australiens. Et il dit, c'est formidable, les Australiens, ils m'adorent, hein, vraiment. Et ils me disent, toi, quand tu vas mourir, t'inquiète pas, c'est pas un gars qu'on va tuer en face, c'est six, tellement on t'aime fort. Et il dit, bah, bon, mais ils ont pas tout compris à l'enseignement de Jésus-Christ, mais voilà, c'est... Alors voilà. Il s'appelle Salvado, rue des Indos Salvado. Écrivez-moi ou laissez-moi. Voilà, on trouve son ethnographie en français, ça c'est sûr. Je pense qu'on doit pouvoir la trouver en italien sur Internet assez facilement. Et c'est ça qui fait que, alors moi j'y suis pas allé, j'ai failli y aller, mais au musée du Vatican, ils ont des outils, ils ont des trucs aborigènes. C'est la mission la nouvelle Norcia, ça s'appelait, cette mission à côté de Perth. Voilà. Alors, cette question donc de l'Australie m'a amené à me poser le problème plus général de est-ce que la guerre, comme on a tendance à le dire souvent en France, ça date de rayer les mentions inutiles, le néolithique, l'âge du cuivre, l'âge du bronze, etc. Enfin, selon les nuances, mais voilà. Est-ce que vraiment, chez des chasseurs-cueilleurs, dénués de toute richesse, etc., il y a absence de guerre? Ou est-ce que, finalement, ça pourrait être un phénomène beaucoup plus ancien que ce qui est généralement admis? Et sortons de l'Australie et allons voir ce qui se passe ailleurs. Et puis, en particulier, avec cette préoccupation de se dire, dans les raisons dans les façons de se friter entre groupes, il y a autre chose que la guerre ou pas la guerre. En Australie, par exemple, comme partout, on a ce qu'on appellerait nous facilement la vendetta, que les anglo-saxons appellent le feud, que les médiévistes appellent la fed, etc., mais qui est un truc qu'on retrouve absolument partout, c'est le fameux œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, on nous a tué un gars ou deux, donc on y va, on leur en bute deux, et c'est bon, on est quitte. C'est pas de la guerre, clairement, c'est pas de la guerre. Mais c'est pas tendre non plus, vous voyez, parce qu'on se tue des gens. Donc, on n'est pas là pour leur imposer un truc, pour dire on va leur piquer ceci, cela, ou on va les réduire à merci, ou on va, je sais pas. Mais voilà, on est là pour essayer d'équilibrer les comptes. Et puis il y a des tas d'autres trucs qu'on trouve ailleurs dans le monde, et dont on est donc en train de discuter avec les collègues, etc. Il y a des tas de façons de se fiche sur la figure. Ce que je vous racontais tout à l'heure, on a un différend avec un groupe. On décide de régler ça par une espèce de grand duel collectif relativement modéré. Hein, on essaye. Enfin, après, il y a tous les degrés. Hein, mais enfin, voilà, en l'occurrence, relativement modéré. Puis on dit que voilà, une fois qu'on sera bien tapé dessus, c'est bon, on est quitte, on peut faire la bringue et c'est oublié et on passe à autre chose. Voilà, et ça, on le retrouve dans bien d'autres endroits du monde. Il y a des choses très étonnantes où vous allez. Alors, on parlait tout à l'heure des mythes qui vous disent qu'il faut aller acquérir le sang du machin pour alimenter le soleil, nanani, nanana. Il y a des tas d'endroits dans le monde où vous êtes convaincus que si vous voulez que la vie prospère dans votre groupe, et que donc les enfants grandissent, le riz pousse bien, les noix de coco soient abondantes, que ça éloigne les maladies, etc., etc., eh bien, il faut régulièrement se procurer quelques substances corporelles chez les groupes un peu plus loin, là-bas, et les traiter de façon appropriée. Et si vous faites tout ça bien, ça va marcher. Et en particulier, le truc le plus connu, le plus classique, c'est ce qu'on appelle la chasse aux têtes. Hein, et donc, vous partez en expédition pour ramener une tête, deux têtes, trois têtes, 20 têtes. Alors après, ça dépend des coins, c'est variable. Et avec l'idée, le plus connu, c'est sans doute les givarots, avec leur tête réduite, etc. Et si vous ramenez ça, que vous faites les bons rites, etc., vous allez aller mieux d'une façon ou d'une autre et vous allez prospérer, etc. Et donc, on est en train d'explorer à la fois sur le plan, de l'ethnologie, sur le plan de l'archéologie, etc., toutes ces formes, toutes ces gammes, toutes ces possibilités que l'humanité se soit pas seulement battue pour la domination, pas seulement battu quand il y avait de la richesse et de la sédentarité, mais que ça puisse, qu'un certain nombre de formes puissent venir de loin, voire, pourquoi pas, de très 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 loin, parce que après tout, nos cousins les plus proches, enfin en tous les cas, ceux qui sont à égale distance de nous, c'est-à-dire les chimpanzés, alors le chimpanzé robuste, là, le chimpanzé-chimpanzé, pas le bonobo, eux aussi, je ne sais pas si on peut dire qu'ils font la guerre, on en discutera demain, mais en tous les cas, il y a des formes de conflits collectifs meurtriers qui ne font aucun doute, etc. Et il n'est pas du tout impossible, il est même assez vraisemblable que cette disposition à fonctionner en tant que groupe potentiellement et même assez facilement potentiellement hostile ou méfiant les uns vis-à-vis des autres vienne de loin. Je tiens à le dire, et je me fermerai ma bouche là-dessus, que c'est pas parce que quelque chose vient de loin que c'est fatal et que c'est inéluctable. C'est, voilà, faut juste s'enlever ça de la tête. De la même façon que c'est pas parce qu'un truc n'aurait que 5000 ans que, ouais, c'est bon, on va pouvoir s'en débarrasser facilement. Ça ne marche absolument pas comme ça. Donc, on a tendance à vouloir absolument que des phénomènes soient récents en se disant, c'est bon pour nous, ça. Enfin, un truc classique pour la domination masculine. Il faut absolument que ça date pas de trop longtemps. Comme ça, on se dit, ouais, ça sera plus facile de l'éradiquer. Rien à voir. Ça peut être un truc relativement récent et très dur à enlever. Ou ça peut être quelque chose qui vient de très loin, mais qui, en fait, aujourd'hui, bah, les conditions sont réunies pour que ça dégage, et c'est tant mieux, voilà. Il en va exactement, à mon avis, de la même chose pour la guerre, etc. Nous sommes pas sortis de nulle part, nous sommes des animaux, même si nous sommes des animaux culturels et pensants, etc., ce qui fait une certaine originalité, mais voilà. Et on peut très bien avoir hérité de cette disposition à la violence et de ce... etc., tout en étant des gens culturels et capables de construire. Notre évolution n'est quand même pas finie, jusqu'à enfin, on peut l'espérer en tous les cas, bon, même on en est sûr, et donc être capable de créer petit à petit les conditions de la disparition d'un certain nombre de trucs ancestraux. C'est pas parce que ça vient de loin qu'on est condamné à le subir pour l'éternité, ces deux idées différentes. Voilà. Et puis on pourrait peut-être causer avec les gens qui sont là.
Tout à fait, merci beaucoup. Alors justement, ouais, peut-être le temps de passer à des questions. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous souhaiteraient poser des questions à nos deux invités ?
Oui, juste voulais vous dire merci, c'était super intéressant. J'avais juste une question, à partir de quand vous définissez qu'il y a guerre ? À partir de quel moment ? C'est à partir des morts, des conflits ? Enfin, voilà. Merci.
Ah bah alors, la vaste question, si, c'est facile, mais ça dépend qui c'est vous. Voilà. Si c'est vous, moi, c'est fastoche. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Après, avec les collègues, on discute. Alors, une définition assez simple, me semble-t-il, de la guerre et qui marche quand même bien, c'est un conflit entre groupes, ça clairement, et qui a comme objectif de restaurer la paix en imposant sa volonté par la force à l'adversaire. Voilà, donc la guerre, à la différence par exemple de la vendetta dont je parlais tout à l'heure, la vendetta, on dit tu m'as tué quelqu'un, bah, je te tue quelqu'un et c'est bon, on est quitte. Y a pas, on ne cherche pas à imposer sa volonté, un nouvel ordre, etc. On dit juste on équilibre. C'est un règlement de compte au sens le plus strict du terme. La guerre, c'est moi je veux ça que toi tu veux pas, je vais te l'imposer. Alors ça peut être je te pique un territoire, ça peut être je te mets sous ma domination, je t'extermine si vraiment, voilà. Mais en tous les cas, alors c'est pas une idée neuve, hein. Clausewitz disait déjà que la guerre c'était imposer par notre volonté à l'ennemi par la force, voilà, un truc comme ça. Donc voilà. Mais il y a donc tout un tas de choses qui répondent pas à cette définition. Je parlais de la chasse aux têtes, je parlais des règlements de compte, je parlais des batailles australiennes, ben voilà, il y a tout un tas de trucs. C'est pas de la guerre, mais ça fait quand même du dégât, voilà, c'est...
Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur la... Alors, c'était une vaste question sur le lien entre la construction de la virilité, entre guillemets, et la question guerrière, parce que j'ai l'impression que... alors là, je suis en train de lire Histoire de la virilité, et on a l'impression que dans toute une série de sociétés, c'est quelque part le cœur du sujet, en fait.
Ah ben ça c'est sûr, hein. Y a une division sexuée du travail dans l'espèce humaine, alors pas que dans l'espèce humaine, je pense que chez les chimpanzés c'est pareil, hein. C'est les mâles qui d'abord et avant tout se castagnent. Alors dans l'espèce humaine, bah oui, toutes les sociétés humaines jusqu'à la nôtre en tous les cas ont été sexuées et ont partagé plus ou moins rigoureusement, voilà, un certain nombre de tâches. Il y a des variations. Il y a des choses qui, chez les unes, sont féminines, chez les autres, sont masculines, chez les autres, sont indifférenciées, etc. Mais alors, il y a quelques trucs qui ne changent pas. Et dans les trucs qui ne changent pas, c'est que l'exercice organisé de la violence, de la guerre ou de toutes les formes possibles, c'est très, très majoritairement masculin. Alors après, ça peut être éventuellement un peu féminin aussi, mais ça dépasse jamais le « un peu féminin aussi ». Voilà. Bon. Il n'y a aucune société humaine connue où il y avait plus de femmes combattantes que d'hommes. C'est un truc, on n'a jamais vu ça nulle part. Voilà, bon. Y a ça, donc sans doute un certain nombre de raisons dues à notre héritage évolutif, à la différence de constitution. Et puis là-dessus, la culture, évidemment, qui a entretenu. Voilà. Alors après, dans une société pas guerrière, Bah évidemment, le côté « tu seras un homme si t'es un bon guerrier », etc., a tendance à disparaître. Et j'ose imaginer que dans la société de l'avenir, les gens auront bien du mal à comprendre comment, dans le passé, tuer des gens pouvait être un fait de gloire. Voilà. Ça, c'est dans l'avenir. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. En tous les cas, oui, depuis très très longtemps, la guerre étant une activité ou ce qui s'y rattache étant une activité masculine, bah ouais, c'est un fait de gloire et de tout ça. Et les jeunes hommes en particulier, pour devenir grands balèzes et forts, ou se faire reconnaître, etc., dans la société, bah, ont tendance à aimer ça, oui.
Oui, ce serait pour Jean-Luc Lequelec, s'il vous plaît. Est-ce que les mythes peuvent, l'étude des mythes peut nous éclairer justement sur l'origine de la guerre dans les sociétés, tout simplement?
C'est vraiment une bonne question. Je propose que tu participes à un colloque où tu essaierais de...
Nous éclairer sur l'origine de la guerre, je suis pas sûr du tout, parce que j'ai essayé de faire, justement pour une présentation au colloque tout à l'heure, de faire un inventaire des mythes sur l'origine de la guerre. Et grosso modo, il y en a, mais il y en a très 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 peu. Voilà, très 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 peu. Moi, je m'attendais à en trouver plein, parce que je me disais la guerre, c'est un phénomène manifestement universel. Peut-être on peut trouver, je ne sais pas, des quelques cultures où bon, ce qu'on peut appeler guerre n'existera pas, mais ce sera vraiment peanuts. C'est un phénomène universel. Et en fait, tous les phénomènes massifs universels communs à l'humanité, il y a des mythes qui justifient leur existence. Donc, que ce soit le fait d'épouser quelqu'un, le fait de mourir, le fait qu'il y a des puissants et des misérables, n'importe quoi qui puisse vous passer par la tête, qui est répandu, universel chez les humains, vous avez des récits qui vous disent, qui sont toujours du même type, qui vous disent « Ah ouais, d'accord, maintenant c'est comme ça, mais ça n'a pas toujours été comme ça, attention, hein, autrefois, à l'origine, au temps où les bêtes parlaient, c'était pas du tout comme ça. Les gens mouraient pas, le sexe n'existait pas, les gens n'étaient pas sexués. C'était très différent de maintenant. Et il s'est passé un truc, c'est ça que raconte le mythe, c'est ça qu'on appelle un mythe, parce que c'est un récit, c'est une histoire, en fait. Et depuis que ça s'est passé une fois, maintenant c'est comme ça. Voilà. Et puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. Hein. C'est pas peine de discuter. Bon. Très réactionnaire, les mythes. Hein. Bon. De ce point de vue. Et donc je me disais, la guerre, c'est manifestement tellement répandu que fastoche, on va en trouver plein partout. Eh bien non. C'est très étonnant. Alors, j'étais extrêmement surpris parce que j'en ai trouvé des mythes qui justifient et qui donnent du sens au fait que la guerre existe. Il y en a, grosso modo, dans le monde entier. Hein. En étant gentil, une vingtaine. Alors que vous prenez les mythes, par exemple, je fais des inventaires, c'est un peu mon truc, il y a des gens qui font du macramé, des trucs, moi je fais des inventaires de mythes. Et donc par exemple sur le mythe du déluge, hein, tout le monde connaît le déluge biblique, mais il y a plein d'autres récits de déluge, j'en ai inventorié plus de 900 dans le monde. Dès qu'on prend un sujet comme ça, c'est des centaines et des centaines, Et là, une douzaine, c'est, autant dire rien. Après avoir dépouillé des milliers et des milliers de documents, quoi. Et donc, je me suis dit très déçu. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à ce maudit colloque où j'ai eu le malheur d'accepter d'intervenir, bon. Et en même temps, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça qui est intéressant. Justement, c'est que il n'y a pas besoin de justifier l'existence de la guerre. La guerre, c'est quelque chose qui est parfaitement... naturel, on hésite à dire que c'est naturel après tout ce que tu as dit, hein. Mais conçu comme ça, si les mythes, c'est des récits qui font appel à un événement du passé qui n'est survenu qu'une seule fois et qui fait que les choses sont comme elles sont maintenant et que ça leur donne du sens, alors la guerre, ça ne fait pas partie de ça. Quelquefois, il y a quelques récits, mais généralement la guerre, c'est quelque chose qu'il n'y a pas besoin de s'en expliquer. C'est quelque chose de normal. Il y a la guerre. Alors après, il y a beaucoup de mythes qui sont des récits de guerre. On raconte des combats, des trucs, etc. Bon, voilà, où la guerre joue un rôle même central. Mais le but de ces récits, c'est pas du tout de justifier, de vous dire « Ah, mais jadis, il n'y avait pas de guerre, mais il s'est passé un truc, puis maintenant, ben voilà, les gens se font la guerre, c'est comme ça. » C'est pas du tout ça. Les mythes qui utilisent la guerre, c'est pour dire qu'il y a eu une guerre et ça a modifié le monde de telle ou telle façon. Mais la guerre elle-même, elle n'est pas justifiée. Et donc, c'est un résultat négatif qui est peut-être intéressant, finalement, puisque ça dit quelque chose. Si les mythes, c'est quelque chose qui nous informe sur notre façon de voir le monde, peut-être que c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas de mythe pour justifier l'existence de la guerre.
Non, je voulais dire que peut-être, j'ai réfléchi sur ça et je me demande si c'est par rapport au fait que c'est, comme monsieur, je ne sais pas, disait, que c'est un phénomène pas très ancien, non? C'est que préhistoriquement, comme cette date, ce n'est pas très ancien, ça ne date pas de très longtemps. Non, c'est comprendre.
Alors, pour répondre du côté, tu répondras ensuite si tu veux, mais pour répondre du côté du mythe, le mythe fait appel à des événements anciens pour expliquer le présent, mais ça peut être pour expliquer des choses. Ça ne dit rien sur le réel, en réalité. C'est quelque chose, c'est un récit qui donne du sens au réel, mais qui, le mythe, c'est pas un reflet ni de l'histoire, ni de la préhistoire, c'est pas un reflet des sociétés. On peut pas penser, on l'a longtemps pensé, que si on aborde le mythe de la bonne manière, si on l'analyse avec les bons outils, derrière le récit, comme ça, qui peut être une petite histoire, on va trouver de l'histoire, au sens avec sa grande hache. Hein, voilà. On va trouver l'histoire, on va trouver quelque chose de vraiment réel, qui nous dit quelque chose sur l'évolution des sociétés, sur l'état passé des sociétés. Pas du tout, en fait. Ça nous dit quelque chose, mais ça a un rapport avec l'histoire, mais qui n'est pas celui-là, quoi. Et donc, le fait que le mythe explique quelque chose qui, finalement, serait récent ou ancien, non, il explique des choses en faisant appel à un événement ancien. Ça ne veut pas dire que cet événement lui-même, il soit forcément récent ou ancien. Pour moi, c'est déconnecté. Voilà.
Après, il faut s'entendre sur ce que c'est ancien et récent. Cela dit, même des événements, je crois, qui datent... Enfin, Pierre Lemonnier, là, qui est au fond et spécialiste de la Nouvelle-Guinée, pourra certainement me corriger si je dis des bêtises. Je vais probablement en dire. Mais on a vu des mythes naître en Nouvelle-Guinée, y compris dans les dernières décennies, pour expliquer justement des choses nouvelles. Enfin, comment dire, à mesure que la réalité des gens changeait, ils forgeaient des mythes pour expliquer. Donc, y compris des choses qui avaient 40 ans ou 50 ans d'âge, quoi. Voilà. La plupart des... Enfin, comment dire, nous, il y a un récit mythique qu'on connaît en général assez bien, c'est la Bible, hein, voilà, Ancien Testament. Apparemment, ça aurait été écrit, si je ne me trompe pas, vers moins 600, quelque chose comme ça, enfin, si je me rappelle bien. Si on imagine que la guerre est née quelque part entre le néolithique et l'âge du bronze, on avait largement le temps de forger plein de mythes pour l'expliquer depuis. Je veux dire, on avait des millénaires, quoi. Voilà. Le fait que nulle part ou quasiment nulle part ça a été fait montre que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas une question d'ancienneté. Y compris, encore une fois, les aborigènes australiens, pour parler eux-mêmes, parlent de la guerre comme d'un truc... alors, je ne parle pas de mythes, ils n'ont pas des mythes non plus de feu de la guerre, mais quand on leur dit « Mais est-ce que ça fait longtemps que vous faites la guerre ?» Bah, les mecs disent « Depuis toujours ». Enfin, dire « Eux, c'est nos ennemis », c'est même pas héréditaire. C'est « Depuis que le monde est monde, ces gens-là sont nos ennemis et ils le resteront jusqu'à la fin des temps. » Enfin, voilà. Et donc, s'ils avaient voulu créer une histoire pour expliquer comment ces gens-là sont devenus leurs ennemis, pourquoi ils leur font la guerre, etc., ils l'auraient inventé. Et non, effectivement, après, c'est Jean-Loïc qui connaît l'affaire, mais on est manifestement devant un truc étonnant où la guerre a moins besoin d'explications que l'existence des sexes, que l'existence de la mort, qu'un certain nombre d'autres choses. Voilà. Et par contre, on peut s'en servir pour expliquer tout un tas d'autres trucs. Personne ne va poser la question, mais pourquoi au début il y a eu la guerre, etc. Ben non, il vous suffit qu'on vous dise qu'il y en avait une au début et tout le monde va accepter ça sans problème, quoi.
L'heure là, il est peut-être, ouais, il est peut-être un peu tard. Ouais, bon.
Je pense que le libraire va pas tarder à sortir le fusil.
Ben merci. Merci à nos deux invités. Merci à vous toutes et tous d'être venus. Et merci à la librairie Terra Nova. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci.
Merci.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Ben bonsoir tout le monde. Merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à tous. toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venu ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.